La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour le deuxième numéro de notre série consacrée jusqu'à jeudi à Guillaume Apollinaire. Une semaine à l'occasion d'une très belle exposition qui vient d'ouvrir au musée de l'Orangerie à Paris sur Apollinaire et les artistes de son temps. On y découvre non seulement des œuvres lui ayant appartenu, des peintures et des sculptures de ses amis, de Picasso notamment, mais également des images faites de sa main, car Apollinaire dessinait aussi, et pas seulement des calligrammes. Cette exposition, nous la visiterons jeudi dans la compagnie des auteurs afin de vous la faire découvrir. Demain, mercredi, il sera question de poésie, tout simplement, et c'est Étienne-Alain Hubert qui évoquera pour nous alcool, calligramme et cette autre forme de poésie surréaliste qui représente les mamelles de Tirésias. Hier, nous avons raconté la vie de celui qui est né Guillaume de Kotrowitzki en insistant sur les premières années. C'était avec Laurence Campa et vous pouvez réécouter tout cela en podcast. Mais nous avons pris soin de laisser de côté la période de la Grande Guerre pour pouvoir en parler en longueur plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui. Et nous le faisons en première partie de cette émission avec une spécialiste de la guerre de 14, l'historienne Annette Becker. Elle a publié « La grande guerre d'Apollinaire, un poète combattant », c'est aux éditions Taillandier. Et c'était en 2009 un essai qui lui avait obtenu le prix de l'Académie française. La guerre mais aussi l'amour et l'éros, si ce n'est plus. Au menu également de notre émission d'aujourd'hui avec en seconde partie le chercheur, écrivain, libraire, galeriste et éditeur Alexandre Dupuis qui fait paraître à la Musardine un livre consacré à Apollinaire et les femmes. Il avait déjà publié les œuvres érotiques complètes du poème dans la même maison en 2013. On le retrouvera à partir de 15h35 après la chronique d'Olivier Meunier. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Comment Apollinaire se comporta-t-il devant la guerre ?
On sut très vite qu'il s'était engagé dans l'armée. Ceux de ses amis qui avaient pu rester en contact se communiquèrent ses nouveaux poèmes. Y passait toujours la même flamme, mais rien n'y marquait une prise de conscience appréciable des événements. Tout se résolvait par un enthousiasme à coup sûr sincère, mais qui rejoignait alors l'enthousiasme de commande et, en dépit de l'expression toujours très neuve du sentiment, ne laissait pas pour moi de verser dans le conformisme. Devant l'effroyable fait de guerre, Apollinaire avait réagi par une volonté de plonger dans l'enfance, de réanimisme à tout prix, qui était très loin d'être le talisman espéré. Quelles que soient les grandes réussites qu'il ait retrouvées dans cette voie, je pense à des poèmes tels que « La nuit d'avril 1915 », j'estime qu'en sa personne, la poésie avait été incapable de surmonter l'épreuve. Elle se trouvait à mes yeux frappée d'insuffisance.
Bonjour Annette Becker.
Bonjour.
Vous avez reconnu la personne qui parle dans l'archive que nous venons de diffuser? Faut-il préciser que c'est André Breton?
J'ai pensé que c'était Breton, oui. Qui disait pas ce qu'il pensait pendant la guerre.
Ah, pourquoi donc?
Ah, parce que pendant la guerre, il était absolument enthousiaste d'Apollinaire. Et l'effort de guerre vu pendant la guerre, c'est pas du tout l'effort de guerre vu 20 ans, 30 ans, 50 ans après. Et le jeune médecin breton a lui aussi pris beaucoup de plaisir à la guerre.
Oui, parce que c'est ça qui est étonnant dans cette archive, c'est ce mot d'enthousiasme, et même cette phrase, enthousiasme à coup sûr sincère.
Pour Apollinaire, c'est absolument vrai.
Donc il était enthousiaste de partir à la guerre.
Il est enthousiaste et peut-être un mot un peu fort, mais il était résolu à partir à la guerre parce qu'il pensait que se battre contre les Allemands était ce qu'il fallait faire. Je pense qu'il avait aussi quelque chose derrière la tête. Il avait été extrêmement triste et meurtri de ne pas avoir été naturalisé français. Lui qui écrivait le français mieux que personne de sa génération.
Il avait demandé à plusieurs reprises à être naturalisé.
Voilà. Et l'affaire du vol de la Joconde, dans lequel il avait été malheureusement embarqué, je dois dire trahi par son grand ami Picasso, avait fait qu'on lui avait refusé la naturalisation.
Parce que lui n'était pas allé en prison, Picasso, alors qu'Apollinaire, oui.
Exactement. On le voit d'ailleurs très bien dans l'exposition dont vous parliez. On voit les pièces qui le montrent et les fameuses têtes ibériques qui avaient été volées. Mais donc, par rapport à la guerre, Apollinaire, vraiment, dans la mesure où il est d'origine polonaise, avec ce nom de Kostrowitski, que c'est les gens du nord de son escouade n'arrivaient pas à prononcer, donc ils l'ont appelé Kointrowitski, ou des choses comme ça, qui sont très très amusantes, et qu'il a utilisé dans ses lettres, ou même dans sa poésie, il voulait montrer qu'il était français. Et ça a été une façon pour lui de sortir de ce qu'il voyait comme une tare, qui était d'être un apatride, réellement. Alors que pour lui, il faisait partie complètement de la nation française, parce qu'il faisait partie de sa culture.
Donc c'est un apatride qui est devenu un nationaliste, vous diriez cela ?
Oui, tout à fait. Au cours de la guerre, il devient très nationaliste, à tel point qu'il y a un moment où Breton, que l'on entendait tout à l'heure, et Vacher, qui pourtant l'admirait terriblement, se met à dire qu'il va un peu trop loin. Et au moment du poète assassiné, en particulier, Vacher a des mots assez terribles pour dire qu'en fait, on a bien fait de l'assassiner, le poète, parce qu'il est trop nationaliste.
Pourquoi trop nationaliste ?
Parce qu'il avait vraiment, en particulier quand il a accepté de travailler à la censure, il était considéré comme du côté des jusqu'au boutistes, alors que ce n'est pas vrai en réalité. En réalité, il était comme la plupart des combattants, à la fois résolu, patriote, mais se rendant bien compte, très rapidement quand il arrive au front, que les horreurs du front, que la souffrance du front est insupportable. Et on le voit dans sa littérature, on le voit dans ses lettres. Il est toujours en train de vivre dans ce chiasme qui est celui de l'immense majorité des combattants. Ce qui ne l'empêche pas de penser que la cause de la France est la bonne.
Alors il y a cette autre phrase dans l'archive de Breton qu'il faudrait creuser un petit peu. C'est quand il dit « il avait réagi par une volonté de plonger en enfance ». Alors l'enfance et la guerre, ce n'est pas tellement des mots qu'on associe comme ça immédiatement. Est-ce que vous sentez, vous, cette part de jeu presque qu'Apollinaire a pu ressentir à aller sur le front ?
Alors je ne sais pas si c'est ce que voulait dire Breton, mais pour Apollinaire c'est tout à fait exact. Il parle au début, je ne sais plus si dans une lettre à Madeleine ou dans une lettre à Lou, il parle carrément du fait qu'ils sont comme des cow-boys et des indiens.
Pas de la forfanterie, ça, un petit peu
Je ne crois pas, parce qu'on le retrouve partout. On le retrouve chez des combattants bien différents et dans les différents fronts. Je pense à Marc Bloch, par exemple, qui dit qu'il est comme dans le Far West de son enfance. Et quelqu'un comme Junger, pour prendre
de l'autre
côté, parle aussi des récits de cow-boys et d'indiens qui avaient été extrêmement aussi popularisés dans la littérature de jeunesse allemande avant la guerre. Alors, pourquoi ils disent cela ? Je pense qu'ils disent cela très souvent en arrivant au front. Et pour Apollinaire, c'est vraiment le cas. Le temps qu'il s'engage, dans un premier temps, il a du mal à s'engager. Puis qu'il fasse ses classes à Nîmes, il n'arrive au front qu'au printemps 1915. Et donc au printemps 1915, c'est pas un moment de forte offensive, c'est un moment où on s'organise dans les tranchées, si je peux dire ainsi. Il est dans l'artillerie. Et à ce moment-là, eh bien, on se prépare pour passer un été pratiquement de camping. D'ailleurs, je crois que le mot camping ou le mot camp de scout est utilisé par Apollinaire. Et là, il se dit qu'il va beaucoup écrire. C'est ce qu'il fait, d'ailleurs. Et il se fabrique, comme un artisan, une table, une chaise spéciale pour écrire depuis les tranchées. Donc il a l'impression qu'il est en camp de vacances.
C'est les grandes vacances.
Voilà. Ça va vite s'arrêter.
C'est une vie grandiose qui ne va pas sans une mélancolie lyrique extraordinaire. Les obus gémissent d'une façon déchirante, écrit-il à Lou, son amoureuse. Là aussi, on a cette ambivalence de la grande beauté de la guerre, interprétée par le poète.
Tout à fait. Le fait que la guerre puisse être belle, en même temps qu'elle est horrible, et elle est peut-être d'autant plus belle qu'elle est d'autant plus horrible, et quelque chose qu'il fait passer de façon merveilleuse dans ses vers, et peut-être encore mieux dans ses lettres, je dirais. Et cette ambivalence permanente, je crois que beaucoup de combattants la ressentaient, qu'elle a été au fur et à mesure peut-être noyée dans l'horreur qui était plus grande que la beauté. Mais on a ces vers où on a des dessins, des peintures de beaucoup d'autres pour nous le rappeler avec ce mot de nostalgie du front qu'utilise Teilhard de Chardin, mais qu'utilise aussi Blaise Cendrars, l'ami et l'ennemi poétique quelque part de d'Apollinaire, qui avait perdu un bras quelques jours avant qu'Apollinaire n'arrive lui-même au front.
On peut peut-être écouter une archive de Blaise Cendrars où justement on se rend compte que ce poète-là n'était pas forcément très sympathique ou très empathique avec Apollinaire.
Je ne marche pas, c'est quand il commence à faire des théories et des histoires, on n'en peut finir. Il était un vantard, alors quand il se vantait trop, on le laissait tomber. Il faisait une revue, alors de temps en temps, il vous demandait un poème pour sa revue, parce que il manquait un peu de copies. Puis un beau jour, je lui dis, écoute mon vieux, qu'est-ce que tu attends? Va donc t'inscrire maintenant, il y a la guerre. On demande des engagés volontaires. Alors, il a fait un tas d'histoires, un tas de chichis, il a tout de même fallu qu'il s'engage un beau jour. Puis est arrivée une histoire d'amour qui a fait que son engagement s'est précipité. Et il en est mort. Il n'a pas duré longtemps. Il n'a pas été soldat un an. Voilà.
Quand même un peu dur, vous ne trouvez pas, Annette Becker?
C'est un peu dur. On reconnaît dans cette très grande méchanceté de Cendrars vis-à-vis d'Apollinaire, je pense, cette jalousie entre eux, qui était une jalousie littéraire. En fait, Cendrars avait écrit la prose du Transsibérien, et Apollinaire, Zone, juste après. Et on n'a jamais très bien su lequel avait copié sur l'autre, mais c'était probablement Apollinaire. Or, la renommée d'Apollinaire était, de son vivant, bien plus grande que celle de Cendrars, et il ne lui a jamais pardonné.
Oui, mais parle quand même d'un mort, là.
Mais par rapport à la guerre, c'est très intéressant, parce que, en fait, dans la prose du Transsibérien, Cendrars parlait déjà de blessures de guerre, puisque le Transsibérien menait jusqu'à la guerre russo-japonaise. Et il y a, dans la prose du Transsibérien, des vers absolument atroces sur les horreurs que vivent les soldats dans cette guerre, et en particulier sur ceux qui deviennent fous à cause de la guerre. Et ensuite, il dit, dans cette interview bien tardive, hein, si je me rappelle bien, elle est des années 50, il dit que Apollinaire est mort. Or, Apollinaire, bien sûr, n'est pas mort de sa blessure. Il est mort de la grippe espagnole, mais il était insupportable que le grand poète soit mort d'une chose aussi banale qu'une grippe. Et on a toujours continué à dire, et Sandrard sait très bien que c'est faux, qu'il était mort de sa blessure. Et là, il rajoute bien sûr qu'il est mort en tant que poète. Donc on a plusieurs degrés, et moi je rajouterais ce qu'il aurait pu dire, que quelques aspects de sa poésie juste avant la blessure ressemblaient aussi à une poésie de quelqu'un qui est traumatisé. Je pense à ce vers terrible, il pleut des yeux morts. Et on sait bien que les traumatismes psychiques des soldats viennent souvent du fait qu'ils ont vu leurs camarades être explosés par les obus.
Mais là, on n'a pas l'impression que ce soit le cas justement avec Apollinaire. À aucun moment, ou presque, il ne revient en témoignant des horreurs. Alors les horreurs, elles sont dans les poèmes, évidemment, mais quand même, pas autant que chez beaucoup de poilus qui sont revenus de cet enfer.
Alors je crois que c'est un problème de chronologie. C'est-à-dire que beaucoup de ceux qui racontent les choses les plus terribles les ont écrites après la guerre à laquelle ils ont survécu. Or, Apollinaire est mort au moment de l'armistice.
En 1918, quelques jours avant
l'armistice. Oui, il meurt le 9 novembre, donc il meurt juste avant l'armistice. Et il meurt en plus, non pas de sa blessure, mais de cette fichue grippe.
Il était peut-être affaibli quand même par cette blessure-là.
Non, c'est un total mythe, puisqu'il s'agit d'un virus. La grippe espagnole, qu'on appelle quelquefois le syndrome d'Apollinaire, d'ailleurs, a touché une vingtaine de millions de gens à travers le monde, dont des Américains très bien nourris, qui n'avaient pas connu la guerre. Donc ça n'a strictement rien à voir.
Il avait fréquenté les hôpitaux, bon, ce sont peut-être
oui, mais c'est pas dans les hôpitaux, deux ans auparavant, sa blessure, qu'il avait attrapé le virus. Non, c'est un virus qui a touché, justement, en particulier des jeunes adultes en bonne santé. Malheureusement, il a attrapé ce virus et il n'y avait rien à faire.
Mais cette blessure, quand même, l'a transformé. Elle l'a au moins rendu plus irritable. Enfin, c'était quand même un autre homme quand il est revenu
du front. Ah, bien sûr, parce que la trépanation, ce n'est pas rien. Hein. On a retrouvé il y a quelques années les notes du médecin qu'il avait opéré, qui donne très très précisément ce qu'il a fait, et que ça lui avait changé le caractère. Mais je suis persuadée que ce qu'on voit dans sa poésie ou dans les dernières lettres qu'il écrit, en particulier à Madeleine, dans ces années-là, dans ces jours-là, montre qu'il avait déjà été traumatisé avant la trépanation.
Une autre lettre, cette fois envoyée à Lou, il est encore sur le front, c'est le 10 décembre 1914.
Mon Lou adoré, je t'écris de la cantine. Le papier est déjà taché, il le sera beaucoup plus tout à l'heure, mais il n'y a qu'ici, que dans le brouhaha, que j'ai un peu de tranquillité. Ce matin, levé dans la nuit, appel dans la pluie. Entre-temps, café. Après l'appel, on nous distribue du pain et une tablette de chocolat. Le brigadier me désigne pour être de plat avec un autre poilu. À 6h30, on me montre à sceller dans l'écurie qui sent bon comme l'amour. À 8h30, au manège, où je vois mes camarades faire le tape-cul. J'irai après-midi. À 10h30, je vais chercher la soupe et le rata à la cuisine. Pas très rigolo. On bouffe. Je rapporte le plat et les saletés tout seul. Je fous le camp au plus vite pour qu'on ne me fasse pas vider ses ordures. Et voilà, Lou adoré. Je n'ai plus que quelques minutes, je mange une poire et bois une chopine. À midi moins le quart, il faut que je sois lavé et rasé. Lou adoré, Je te promets de t'aimer toute ma vie et de n'aimer jamais que toi. Tu es ma seule femme à jamais et toujours, toujours je te serai fidèle. Cette nuit, Lou, je me suis aperçu que ma chaîne s'était cassée. Toutes les médailles s'étaient répandues dans mon lit et je les ai toutes récoltées, une à une, serrées dans mon petit lit, puis je les glissais dans mon porte-monnaie. J'ai bien embrassé les tiennes. Lou exquis, je pense à toi, à ton adorable corps, à ta chère âme si simple et si profonde. Au revoir, petit Lou. À tout à l'heure. Je vais travailler.
Une lettre à Lou donc du 10 décembre 1914, lue par Guillaume Gallienne. Donc c'est en réalité juste avant qu'il n'aille
oui,
sur le front.
Oui, et c'est très intéressant parce que ça montre aussi, d'une part, le talent d'Apollinaire et d'autre part, qu'on lit les textes par rapport à ce qu'on sait déjà. Parce qu'il écrit cette lettre alors qu'il est à Nîmes. Ça fait même que quelques jours qu'il est à Nîmes. Donc il vient juste de s'engager, il fait ses classes. C'est un service militaire qu'il fait. C'est pas du tout des conditions de front. Mais on peut le lire comme ça parce qu'il a tendance à l'écrire de façon dramatique. Et le poème sans doute le plus célèbre d'Apollinaire, « La nuit descend, on y pressent un long destin de sang », il l'a écrit à Nîmes aussi. Et quand on le lit, on peut pas croire qu'il a pas déjà vu le sang, qu'il a pas déjà vu les affrontements, qu'il a pas déjà vu un obus coupé en deux, un de ses camarades. Et bien pourtant, il est à Nîmes, il n'a pas vu le front.
Se dit, c'est un poète qui vit dans l'imagination, et peut-être que son imagination est au moins aussi terrible que ce qu'il va vivre par la suite.
Absolument. Et c'est d'ailleurs pour cela, personnellement, en tant qu'historienne, que je pense que lire des poètes, des écrivains, qui connaissent des situations aussi extrêmes que la Grande Guerre, par exemple, est extrêmement important. Parce qu'ils ont un sens de la formule qui permet de comprendre des choses à nous qui en sommes très très loin, alors que le combattant ordinaire aura plus de mal à s'exprimer.
Vous diriez que votre travail sur Apollinaire et la lecture de ses poèmes et aussi de ses œuvres vous a fait comprendre autrement cette Grande Guerre que pourtant vous connaissez par cœur.
Pas autrement complètement, ça serait ridicule. Mais je crois que dans la force des détails qu'il sait aller chercher, je pense à quelque chose, par exemple, je m'intéresse beaucoup à la religion de guerre. Que croit-on dans de telles conditions et peut-on croire dans de telles conditions? Il a des textes sur les superstitions qui sont absolument remarquables. Alors c'est l'écrivain, c'est aussi le journaliste qui continue à tenir ses chroniques dans le Mercure de France, qui sont absolument incroyables. Il a une culture formidable, c'est une guerre mondiale, il va chercher des détails dans le monde entier. Et donc, je crois que ce qu'il apporte, c'est non seulement son imagination, mais l'érudition à l'image de son imagination. Et c'est pour cela qu'il est si important pour comprendre cette guerre.
Et la religion, alors justement, est-ce que lui priait? On sait qu'il allait sur les cimetières, que parfois, quand il le pouvait, il allait dans les églises.
Tout à fait. Je ne pense pas qu'il avait, avant la guerre, une pratique religieuse absolument importante, mais il se considérait comme catholique. Hein. Il avait des liens... important, voire de sang avec le Vatican. Et donc, quand il arrive sur le front, comme énormément de combattants de toutes les armées, eh bien, ces liens avec une certaine forme de croyance sont revigorés. Et il rentre énormément dans les églises. Vous lisiez tout à l'heure quelque chose sur une médaille. Hein. C'était très important pour lui, comme pour tant de combattants. Il avait un certain nombre de médailles religieuses. Mais par ailleurs, c'était toujours un homme qui explorait tout. Et quand il rentrait dans une église où il y avait des morceaux de vitraux cassés, il les prenait pratiquement de façon surréaliste au moment où il invente le mot, quelques mois avant d'inventer le mot. L'expression, il joue avec ces objets d'église de façon poétique et imaginaire. Donc il y a toujours chez lui ce contraste entre une foi qui était réelle et les jeux avec ce qu'il peut trouver dans une église.
Jean Cocteau.
Il y a deux façons d'envisager la guerre.
il y a celle du feu, de Barbus, la boue, les poilus, et il y a celle d'un grand poète de Guillaume Apollinaire. Il voyait des hommes de faïence et de clair de lune sous des fusées pâles. Il envoyait à Rouvert des cartes postales ravissantes. Il s'écriait « Ah, que la guerre est donc jolie !» J'avoue que cette forme d'héroïsme est beaucoup plus proche de ma personne. La guerre était pour lui une chose gracieuse et dangereuse dans laquelle il se promenait avec cette démarche de ballon captif qu'il avait. Et je ne connaissais pas encore Apollinaire ni ses poèmes sur la guerre, mais je dois dire qu'il a eu sur moi une pré-influence.
Ah, que la guerre est jolie, Annette Becker, peut-être qu'elle est jolie aussi en raison de la technologie qui est déployée à ce moment-là sur les champs de bataille et qui peut-être l'attirait. On sait que début 2015, il écrit un poème qui s'appelle « La petite auto ». Est-ce que vous pouvez nous parler de ce petit poème qui célèbre la technologie automobile dont
oui,
on sait que c'est l'expansion en ce moment, à ce moment-là en Europe?
Mais c'est quelque chose qui passionnait Apollinaire depuis longtemps. Il allait au premier salon de l'aviation. Ses amis, les peintres comme Delaunay, par exemple, ou Duchamp, allaient avec lui dans ses salons de l'aviation. Donc, c'était des gens qui étaient passionnés par les nouvelles techniques. Lui, il était passionné par la radio aussi. Donc, il y avait tout.
Qui à l'époque n'était pas parlé. Hein. C'était juste
morse. Oui, bien sûr, juste des morse, juste des ondes. Et dans ses calligrammes, on le voit très bien. La Tour Eiffel, par exemple, qui est très souvent dans ses calligrammes, qui est dans les peintures de ses amis, que l'on retrouve pendant la guerre, qu'on retrouve bien sûr dans sa poésie, Bergère aux Tours Eiffel. Ce qui le passionnait dans la Tour Eiffel, c'était sa modernité technique, mais aussi le fait que, justement, la radio se trouvait au sommet. Donc, bien sûr, dans Que la guerre est jolie, il y a cela aussi. Et dans la beauté des illuminations de nuit, qu'il voyait comme des feux d'artifice, alors
des
que...
Des bombes, en réalité.
C'était des bombes, ou c'était des obus éclairants extrêmement, extrêmement dangereux. Donc, on voit bien ici ce contraste. Mais ce qui est joli est aussi atroce. Et le poème est double. Et je crois qu'il faut toujours le lire double pour vraiment comprendre Apollinaire et comprendre cette guerre.
Mais là, on ne peut pas ne pas penser au mouvement futuriste, le futurisme italien, qui a tendance quand même à exalter une espèce de virilité un petit peu nauséabonde aussi. Et on se demande dans quelle mesure Apollinaire n'était pas un petit peu là-dedans. C'était aussi l'esprit du temps, c'était Bergson, l'élan vital, c'était l'enquête d'Agathon, où on glorifiait aussi le sport, éventuellement la race. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là d'un peu rétrospectivement mal compris ou un peu étrange?
Oui, il y avait une espèce de culte de la virilité, mais quand vous dites que les futuristes étaient nauséabonds, c'est parce que on les assimile ensuite à leur arrivée dans le fascisme. À l'époque, ce n'est pas le cas. Ils sont pas plus nauséabonds que ne l'est Duchamp. Hein.
Non, ils exaltent juste une espèce de force.
Mais c'est vrai qu'ils ont une exaltation de la force, de la vitesse, du mouvement. Mais c'est le cas de toutes les avant-gardes à cette époque-là. Les futuristes ne le sont pas plus que les expressionnistes.
Mais on a dit qu'il avait été un peu xénophobe aussi.
Ah, mais ça n'empêche pas que lui pouvait être xénophobe. Absolument. Alors, comme toujours avec lui, dans la contradiction, par exemple, il est très, très touché par les soldats africains dans l'armée française et aussi par les soldats indiens dans l'armée britannique. Il voit bien qu'ils sont venus de de très loin et que à leur propos, ils parlent de tristesse, ils parlent d'invisibilité parce que on ne les voit pas et que la guerre de toute façon est invisible et rend invisible. Par ailleurs, on a cru ou on n'a pas cru, mais on a voulu le rendre de très mauvaise humeur en disant qu'il était juif, ce qu'il n'était pas bien sûr. Et il s'est battu en duel pour cela. Il trouvait ça insupportable. Sur ce, il était très ami avec Chagall. Donc toujours ces contradictions. Mais il avait un côté race française, race blanche, absolument.
Pour terminer, je ne sais pas si la paix me donnera beaucoup plus de paix, a écrit Apollinaire. Qu'en pensez-vous, Annette Becker ?
Ben, la paix ne lui a pas donné de paix, puisqu'il ne l'a pas vécue. Et j'irai même plus loin, est-ce qu'il n'y a jamais eu paix après la Première Guerre mondiale ? Je crois que c'était impossible.
Merci Annette Becker. Et comme chaque jour à 15h30, nous allons voir ce qui se passe du côté des journaux et des revues, en l'occurrence aujourd'hui du côté du journal Sud-Ouest avec vous, Olivier Mauny en duplex depuis Bordeaux. Bonjour Olivier.
Bonjour Mathieu.
Vous avez remarqué que Mauny, c'est le héros du roman érotique d'Apollinaire, Les 11 000 verges, dont on va parler avec Alexandre Dupuis. Vous l'aviez noté ça ?
Oui, je l'avais noté, j'ai lu ça dans mon adolescence.
Ça doit être un peu troublant quand même pour vous, non ?
C'était un motif de fierté, ça m'a un peu passé maintenant.
Alors Olivier, aujourd'hui vous ne nous parlez pas des 11 000 verges, je vous avais souhaité nous rafraîchir la mémoire et revenir au temps de ce que l'on a appelé le boom latino.
Oui Mathieu, rien à voir en effet. Ceci, le boom latino, à l'occasion de la récente publication des œuvres romanesques de Mario Vargas Llosa en Pléiade. Cet honneur, être le premier écrivain étranger publié de son vivant dans la collection, à ma connaissance du moins, est dû d'abord, bien entendu, au talent pérenne du romancier péruvien, mais aussi, je le crois, à la reconnaissance de l'importance dans l'histoire littéraire contemporaine de ce moment, on va appeler ça comme ça, de découverte par l'Occident, de la force d'une littérature à l'échelle d'un continent que l'on a appelé le boom.
Alors, est-ce que vous pouvez nous redonner un petit peu les fondamentaux de ce boom ? C'était quand ? C'était qui ?
Ben, pour aller vite, on entend par boom latino la découverte conjointe tout au long des années 60 et jusqu'au début des années 70 d'une génération d'écrivains et surtout de romanciers latino-américains qui en quelque sorte réenchantent le roman à l'usage des lecteurs occidentaux et notamment français, qui en ont bien besoin, perdus comme ils sont dans les expériences formelles, voire peut-être un peu formalistes des littératures de leur propre pays. En France, donc, le nouveau roman, par exemple. Les plus doués et les plus jeunes de ces romanciers, se nommant, par exemple, Mario Vargas Llosa, donc, mais aussi Gabriel Marquez, Carlos Fuentes ou Julio Cortázar, entre autres. Permettez-moi de citer aussi d'autres noms tout aussi essentiels, même si moins passés à la postérité, peut-être. Ernesto Sabato, Guillermo Cabrera Infante ou Juan Rulfo, par exemple.
Et vous avez tout à fait raison de ne pas les oublier. En dehors de ces origines géographiques, Olivier, qui sont plus ou moins communes, disons, à l'échelle d'un continent, est-ce que vous voyez une cohérence ou une convergence stylistique ou même simplement une convergence des sujets parmi tous ces auteurs du boom ?
Oui, je crois, même s'il convient bien sûr de se méfier de tout raccourci critique. Mais avant de vous répondre plus complètement, Mathieu, permettez-moi de revenir sur cette question d'origine géographique, tant elle est, je crois, plus cruciale encore qu'on ne se l'imagine. L'origine géographique commune des écrivains du boom latino, c'est avant tout deux villes, je crois, ni l'une ni l'autre latino-américaine, ces deux villes étant Barcelone et Paris. Barcelone tout d'abord, enclave en ces années-là relativement libertaire, dans une Espagne franquiste à bout de souffle, parce que nombre des écrivains du boom vont y élire domicile, et parce que surtout deux personnes, l'éditeur Carlos Barral, c'est les éditions Seix Barral, très connues en Espagne, et plus encore l'agente Carmen Balcells, disparue l'an dernier, vont accompagner le mouvement, certains disent le révéler à lui-même, voire d'un point de vue marketing, le créer de toutes pièces, lui donner en tout cas les moyens de son expansion éditoriale. Paris ensuite, parce que cela demeure la ville de toutes les tentations, comme elle le fut par exemple pour les Américains des années 20, et parce que de Cortázar à Vargas Llosa en passant par Fuentes, entre autres, hein, ou Alejo Carpentier dans une génération qui précède, tous trois y vécurent, Cortázar jusqu'à sa mort, elle est mieux qu'un horizon, Paris, c'est un refuge. Mais je reviens à la cohérence programmatique, si j'ose dire, du boom. Permettez-moi de citer le rédacteur en chef de Sud-Ouest, Yvarté, certainement
on
un des
permet,
vrais spécialistes. Merci. Certainement un des vrais spécialistes aujourd'hui français de ce mouvement, avec Philippe Lançon également. Selon lui, avec des outils différents bien sûr, le réalisme magique chez Garcia Marquez, un classicisme romanesque et flaubertien plus marqué chez Vargas Llosa par exemple, les auteurs du Boom ont en commun trois figures clés de l'imaginaire et de l'histoire du sous-continent américain, la figure du dictateur, les guerres oubliées et la force contradictoire de la famille. Toutes choses qui, dans l'esprit du lecteur français des années 60, agissent peut-être un peu comme le retour du refoulé.
Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste du Boom et quelle est sa postérité, Olivier ?
Ben déjà, il reste Vargas Llosa. Après tout, il est le dernier vivant, et bien vivant, tant ses derniers livres sont beaux, de cette génération. Après, le Boom correspond à un moment particulier, notamment un moment d'édification identitaire et politique pour nombre de pays latino-américains, moment qui nécessite en quelque sorte, si j'ose dire, la figure du grand écrivain. Garcia Marquez en Colombie ou Fuentes au Mexique, c'était Victor Hugo en France. Ce moment, évidemment, est passé. Ceci dit, la littérature latino-américaine reste extrêmement foisonnante, riche et désireuse de pousser le champ romanesque dans ses derniers retranchements. Servie aussi en France, je crois qu'il faut le souligner, par le travail exemplaire d'éditeurs et de traducteurs qui demeurent extrêmement attentifs à l'actualité latino-américaine. En ce sens, deux noms me viennent à l'esprit à l'heure où il faudrait trouver des héritiers aux écrivains du Boom. Le premier, le plus important, celui de Roberto Bolaño, qui lui aussi vagabonda entre son Chili natal, le Mexique et la Catalogne, où il trouva la mort prématurément en 2003, non sans laisser deux livres absolument essentiels, 2666, et surtout l'immense, l'indépassable, Les Détectives Sauvages. Le second, vrai fils spirituel de Vargas Llosa d'ailleurs, colombien ayant vécu en Espagne, à Paris et en Belgique, avant de retourner dans son pays natal, c'était l'année dernière, Juan Gabriel Vázquez, dont Le bruit des choses qui tombent ou Les réputations sont peut-être les livres les plus importants et parmi les plus beaux pour comprendre la réalité fragmentée et violente de l'Amérique latine d'aujourd'hui.
Et bien voilà qui donne envie de retourner voir de leur côté. Merci beaucoup et à bientôt, soit dans ce studio, soit en duplex. Et dans l'intervalle, comme d'habitude, rendez-vous dans les pages du journal Sud-Ouest. Alexandre Dupuy est chercheur, écrivain, photographe. Il anime également les éditions Astarté et la galerie-librairie Les Larmes d'Eros. C'est dans le premier arrondissement de Paris. Et c'est à la Musardine qu'il a publié les œuvres érotiques complètes d'Apollinaire, ainsi que son essai « Apollinaire et les femmes », tout un pan de l'œuvre d'Apollinaire parmi les moins étudiés. On en parle dans la seconde partie de cette compagnie des auteurs.
Les putains, vêtus de peignoirs groseilles, cramoisis, bleu guillemets ou bordeaux, jouaient au bridge en fumant des cigarettes blondes. À ce moment, il y eut un fracas épouvantable. Un obus, trouant le plafond, tomba lourdement sur le sol où il s'enfonça comme un bolide juste au centre du cercle formé par les joueuses de bridge. Par bonheur, l'obus n'éclata pas. Toutes les femmes tombèrent à la renverse en poussant des cris. Leurs jambes se relevèrent et elles montrèrent l'as de pique aux yeux concupiscents des deux militaires. Ce fut un étalage admirable de culs de toutes les nationalités, car ce bordel modèle possédait des putains de toutes races. Le cul en forme de poire de la frisonne contrastait avec les culs rebondis des parisiennes, les fesses merveilleuses des anglaises, les postérieurs carrés des scandinaves et les culs tombants des catalanes. Une négresse montra une masse tourmentée qui ressemblait plutôt à un cratère volcanique qu'à une croupe féminine. Dès qu'elle fut relevée, elle proclama que le camp adverse était Grand Chelem, tant on s'accoutume vite aux horreurs de la guerre. « Je prends la négresse », déclara Cornabeu, tandis que cette reine de Saba, se levant en s'entendant nommer, saluait son Salomon de ses paroles amènes. « Qui vient piner ma grosse patate, missile et général ?» Cornabeu l'embrassa gentiment. Mais Moni n'était pas satisfait de cette exhibition internationale. « Où sont les Japonaises ?» demanda-t-il. «
L'extraordinaire extrait des 11 000 verges interprété par Pierre Vanneck en 1977, un extrait qui fait le lien, et oui, entre nos deux sujets d'aujourd'hui, la guerre et l'érotisme. Bonjour Alexandre Dupuis.
Bonjour.
Et quel lien vous faites, vous, entre Eros et Thanatos chez Apollinaire ?
Bah, tout ça est très bien amené, puisque il s'avère, très étrangement, les 11 000 verges ont dû être écrites vers 1903-1904. En 1915, en mars 1916, quelques jours avant d'être blessé à la tête, Apollinaire est à Reims pour quelques heures où il quitte le front, ce qui est particulièrement à peine, puisqu'il y est pour quelques heures. Il a pu quitter le front. Et le monde autour de la guerre est toujours un monde très échauffé,
très libre.
Il raconte à Max Jacob. Alors, est-ce que c'est encore poétique? Est-ce que c'est une réalité historique? Je pense que c'est un peu pour taquiner Jacob. Il lui raconte qu'il vient de tomber sur deux jeunes sœurs qui l'ont embarqué. Il a couché avec les deux sœurs pendant que les bombes allemandes tombaient autour d'eux. Donc, c'est assez étrange. On retrouve très vite son côté prophétique où il est capable d'écrire ce qui va lui arriver à peu près une décennie avant.
Et puis, la guerre, ce sont aussi toutes ces lettres qu'il va envoyer à ses diverses amoureuses, des lettres qu'il accompagne de poèmes qui sont, là encore, souvent très très érotiques.
L'érotisme est quelque chose de capital pour Apollinaire. Son premier écrit, Mirelli, ou le petit trou pas cher, qui est un écrit, certains disent qu'il n'a pas existé puisqu'il n'a jamais été retrouvé, mais Apollinaire était un peu aussi coutumier du fait de perdre ce qu'il pouvait écrire puisqu'il écrivait très régulièrement. Donc son premier écrit est un écrit érotique, sa première publication est un écrit érotique puisque le premier livre qu'il publie, il le publie par l'intermédiaire d'un univers qu'il doit connaître déjà un petit peu de pornographie clandestine comme il en existe à la Belle Époque. Donc il est, après, quand il va se faire connaître, bon, pour son personnage de journaliste, pour son personnage de poète, mais aussi pour son personnage de directeur de collection, où il va être le premier à publier Sade, à publier Sade à découvert, à publier L'Arétin, Bafo ou des gens comme ça. Donc oui, c'est quelqu'un pour qui l'érotisme est très très important. Et quand un personnage aussi explosif que Lou arrive face à lui, ça ne peut que le perturber, et ça vient très épistolaire, bien sûr, puisque lui est au front et ses demoiselles sont à l'arrière.
Et donc il est très impressionné par la 9e porte du corps de Lou. Qu'est-ce que c'est que cette 9e porte dont il parle si souvent?
Il regarde le corps féminin en y trouvant 9 portes. Donc nous avons 7 portes sur le visage, nous les garçons. Nous avons la 9e
les
porte, nous n'avons pas
la
8e, donc c'est assez clair qu'il est en train de parler de la sodomie. Mais la façon dont il parle de la sodomie, c'est tout à fait magique et très apollinérien.
Et
bien
c'est
sûr.
Presque pudique.
Absolument pas, et Apollinaire est loin d'être quelqu'un de pudique. Là, il l'amène délicatement, mais si on lit le vers, c'est particulièrement clair. Ce qu'il est, c'est dans l'imagé, il est ce poète extraordinaire, donc il se laisse pas envahir par la vulgarité, qu'il connaît bien. On peut croiser la vulgarité dans les 11 000 verges avec Cornabeux, justement. Ça, il sait aussi manipuler, il connaît les auteurs de son époque, de la pornographie, qui a besoin de mots un peu chargés. Mais oui, il est poète et il arrive à présenter cette 9e porte tout à fait élégamment.
Alors on peut parler un petit peu de ce livre, Les 11 000 verges, et peut-être commencer par ce titre. D'où vient-il ?
Toujours dans l'image, il y a une légende qui dit qu'Attila aurait exigé d'une tribu qui était aux prémices de la chrétienté, quoi, enfin de la religion catholique, pendant sa conquête, qu'il puisse épouser la princesse de la tribu qu'il attrapait. Donc la princesse refuse de se faire épouser par ce barbare, et la princesse qui veut absolument pas renoncer à sa religion, aller vers la religion d'Attila, et décide plutôt de mourir. Et la princesse est un peu comme une princesse de Pharaon qui va mourir, mais qui va mourir avec ses dix servantes. Donc nous voilà, la légende dit 11 chrétiennes enterrées quelque part sur le chemin d'Attila. Il y a quelques siècles plus tard, il y a un catholique qui reprend l'histoire et qui voit, parce qu'il comprend pas très bien l'inscription un peu ancienne, qui au lieu de voir 11 chrétiennes enterrées, il voit 11 000. Donc on a la légende des 11 000 vierges. Et bien sûr, Monsieur Apollinaire, quand il tombe là-dessus, parmi ses multiples lectures, ça l'amuse beaucoup, et le voilà avec ses 11 000 verges. Attention, les 11 000 verges ne sont pas 11 000 phallus dressés qui vont se prendre la 9e porte de d'éventuelles demoiselles, mais 11 000 verges qui vont flageller le prince Moni si jamais il ne parvient pas à donner du plaisir à ses amis. Et donc,
oui, parce qu'il y a du suspense alors dans ce livre. Faut-il dire roman? Comment faut-il le qualifier?
Oui, c'est un roman pornographique, oui, et comment, du suspense terriblement, et du suspense qui mélange les acquis qu'il a eu à travers ça, à travers la littérature pornographique du 17e et du 18e, et qui mélange aussi l'actualité. C'est une période, 1905, où l'Occident est terrorisé par les exactions contre le nouvel ami, le russe, les exactions des Japonais. Donc la fin, ça se termine à Port-Arthur dans des conditions effroyables pour Moni et ses 11 000 verges.
Mais donc il y a une histoire, ça n'est pas simplement des scènes de sexe, c'est aussi quelque chose qui peut se lire pour l'histoire que ça raconte, ou à votre sens, ça n'est pas tellement important?
Ça dépasse de très loin la sexualité. La sexualité est anecdotique. Là, c'est beaucoup plus fort que ça. On a toute une magie poétique. C'est un peu Kubrick qui fait du film d'horreur et ou du film de science-fiction qui d'un seul coup va faire 2001 et qui va faire le film le plus génial sur le thème. Apollinaire, gamin, a certainement lu ses romans pornographiques. C'est peut-être ses premiers revenus, cet univers où il aime bien les livres, les vieux livres, il échange des livres, il passe des livres, il se balade des fois chez des amis avec des mallettes qu'il faut pas ouvrir, il y a des livres dedans. Enfin, il y a tout un mystère par rapport au rapport à la bibliophilie pornographique et Apollinaire. Donc là, il a été maître et l'actualité et l'univers qu'il connaissait dans ses connaissances dans la littérature pornographique, et il a sublimé tout ça. Et il y a à l'époque les éditeurs comme Gaucher, là, l'éditeur qui s'occupe de son bouquin, qui publie aussi d'autres auteurs. Les autres auteurs, ça a un peu tendance à être amusant et à tomber des mains. Apollinaire, c'est le plus beau roman érotique pour moi.
Mais qu'est-ce qui le rend justement beau, littéraire? Qu'est-ce qui fait que Picasso a dit, sans doute le pensait-il vraiment, que c'était son chef-d'œuvre?
Sa plume. Que c'était son chef-d'œuvre parce que il y a toute la puissance et la sincérité qu'il a à travers ses auteurs érotiques, à travers Sade, Bafo, Nercia, enfin tout ce qu'il va chercher chez eux. Et lui, il arrive, c'est pour ça que je vous faisais la comparaison à Kubrick, lui, il arrive à sublimer ça. Et il y a une sincérité du génie en ébullition. Il a 25 ans quand il publie ça. Et rien n'est fabriqué, rien n'est conçu, tout est jeté avec les qualités de son génie.
Et c'est de la poésie?
C'est de la poésie, bien sûr.
L'étoile nommée Lou est aussi belle, aussi voluptueuse qu'une jolie fille vicieuse. Elle est assise dans un météore, agencé comme une automobile de luxe. Autour d'elle se tiennent les autres étoiles, ses amis. Autour de l'automobile stellaire s'étend l'infini éthéré. Les planètes rutilantes se montrent tour à tour comme des graisses calipiges sur l'horizon. La voie lactée monte comme une poussière derrière le météore automobile. Des guirlandes d'astres décorent l'infini. Le météore automobile, luxueux et architectural comme un palais, est monté sur un bolide énorme qui tonne à travers les cieux qu'il sillonne d'éclairs versicolores et durables comme de merveilleux feux de Bengale et doux comme des baisers éternels.
Arthur H. Lou, mon étoile, dans la compagnie des auteurs sur France Culture. Des paroles, bien sûr, de Guillaume Apollinaire. Ça fonctionne pas mal aussi en musique, vous ne trouvez pas, Alexandre Dupuis ?
C'est magique.
Alors j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cette genèse que vous avez déjà commencé à esquisser du rapport d'Apollinaire avec la pornographie, qui est très liée à un certain nombre de lieux, et notamment des bibliothèques, des libraires. Racontez-nous un petit peu comment tout cela commence.
Ça doit commencer dès le début, hein. Apollinaire est à Monaco, Apollinaire est à Nice, Apollinaire part par Lyon, Apollinaire arrive à Paris. Déjà sur tout le chemin, il est en train de lire, il est en train d'écrire, il fait un journal à la main quand il est au collège.
Donc toujours pornographique.
Non, pas du tout. Il s'imprègne de lecture et toujours pornographique. Il n'hésite pas à y aller, mais de toute façon, la pornographie, le sexe, c'est quelque chose qu'il voit très très tôt. Ça, on n'a pas assez de l'émission. Il faudra faire une autre émission sur sa mère.
On peut l'esquisser. Mais sa mère
est une demi-mondaine. Oui. C'est une demi-mondaine qu'on imagine. On voit au cinéma et on l'imagine qu'il faut que les enfants bougent quand il se passe quelque chose, quand quelqu'un vient, elle ne sait pas qui est son père. Son père,
mais ça l'a pas traumatisé, Guillaume Apollinaire.
Ça, je pense que ça l'a beaucoup traumatisé. Ah oui. et que c'est très très important dans sa vie, dans son comportement et dans sa psychologie. Donc il est potache, il est près des Apollinaire, c'est un ami, c'est peut-être pas un amant, c'est très compliqué sa relation à l'amour des femmes, mais c'est un ami sincère, il va vers les hommes tout petit, déjà au collège, au lycée, il est avec d'autres pères qui vont des amis comme Toussaint Louka ou d'autres qui vont devenir aussi des poètes. Et donc le voilà à Paris, le voilà à 20 ans, le voilà qui tombe sur des fous furieux, la bande à Picasso, qui sont en train d'être l'avant-garde du XXe siècle et qui sont vraiment à l'aube du XXe siècle. Et lui a cette passion pour... son premier truc, c'est Boccace, a cette passion pour toutes les légendes, tous les mystères et toute la partie un peu sulfureuse encore à l'époque, dont la partie pornographique, des gens comme Sade qui sont planqués, ils voient bien que Sade, puisqu'il s'intéresse à la littérature, a été lu par tout le monde et dans le second rayon de toutes les bibliothèques.
Donc c'est une référence pour lui, Sade.
C'est l'une des références, mais c'est peut-être la référence la plus importante dans son univers pornographique. Et d'ailleurs, les 11 000 verges sont constituées d'un espèce de cocktail qui mélange Sade, et c'est pour ça qu'il y a toute cette violence, et qui mélange Rabelais, c'est pour ça qu'il y a toute cette truculence.
Mais qui est beaucoup moins dur que les 120 jours de Sodome. Les 11 000 verges, on est plus dans la farce quand même.
À cause du cocktail qui rajoute Rabelais comme ingrédient. Mais non, il y a des passages qui sont moins durs dans Sodome que dans les 120 journées, que dans les 11 000 verges. Oui, si on isole comme ça des extraits.
Alors, il publie en 1906 un livre qui s'appelle « Les exploits d'un jeune Don Juan ». Ça, c'est un livre conçu à partir d'un ouvrage allemand. On a déjà quelque chose qui ressemble aux 11 000 verges, là ?
Absolument pas. Et c'est aussi une des facettes d'Apollinaire. Là, il a... C'est très compliqué aujourd'hui puisqu'on a affaire à un monde qui se cache et qui est l'univers souterrain, clandestin du monde de la littérature pornographique. Les gens se cachent au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, cette littérature évolue de façon différente, se cache encore au XIXe siècle, se cache un peu moins à la période où il publie les exploits d'un jeune Don Juan.
Guillaume Apollinaire.
Pardon ?
Il ne signe pas de son nom ses écrits pornographiques.
Bah, il se cache pas beaucoup des 11 000 verges.
Il signe par ses initiales.
Il sait que, par exemple, quelques années après, au moment du vol de la Joconde, il est un peu inquiété parce qu'il se dit « on va me reprocher ça ». Donc il sait que les flics le savent. Il sait que... peut l'embêter avec ça un jour, que c'est une épée de Damoclès, mais qu'en même temps, c'est pas très grave. Du moment que ces bouquins circulent sous le manteau, qu'ils ne revendiquent pas grand-chose et que c'est un petit marché parallèle, Donc il s'en cache pas vraiment et les bouquins sont monogrammés GA.
Dernière question, malheureusement on arrive déjà à la fin de cette émission, vous regardez la pendule, Alexandre Dupuis, ça va à une vitesse incroyable. Quelle est pour vous la chose qu'il faut lire dans cette littérature-là de Guillaume Apollinaire?
Ah oui, les 11 000 vers, incontournablement.
Et on peut les trouver.
Pas de problème, puisque les exploits, on n'a pas eu le temps de finir, mais enfin, sur les exploits, oui, c'est ça. C'est un bouquin qui manipule et donc qui rajoute un peu, comme il l'a fait d'ailleurs pour d'autres textes, qui rajoute un peu de son sel à lui, mais c'est un bouquin qui est traduit, qu'il a trouvé en Allemagne.
Et on trouve ça dans les œuvres érotiques complètes dont vous vous êtes occupé à la Musardine. Merci beaucoup, Alexandre Dupuis. À 15h55 sur France Culture, c'est le moment de retrouver notre séquence de lecture de poésie. Et cette semaine, Jacques Bonafé vous propose d'ouvrir avec lui le courrier qui lui arrive et dans lequel il trouve des livres de poètes contemporains, comme par exemple ceux d'Yvon Lemaine, poète avec qui il entame cette série aujourd'hui.
Bonjour, nous consacrons ces jours-ci au courrier du lecteur. L'autre jour, dans la boîte, il y avait une île en terre. Livre de poésie d'Yvon Lemaine, paru aux éditions Doucet. Le fauteuil de mon grand-père. Il ne m'a jamais parlé de la guerre, sauf une fois, par le nom, pas propre, du général Nivelle, sali par le sang des soldats, mort, 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 pour rien, 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 rien ne va plus, comme à la roulette, qui se jouaient de leur vie sous les tapis de bombes. Il ne m'a jamais parlé de sa guerre. Je n'ai pas su l'écouter, ni voir, dans le miroir, de l'obus qui brillait une fois par semaine sur le buffet de la salle à manger, l'incroyable jeunesse de ses camarades restés sous les tapis de bombes. Mon grand-père a toujours été vieux, même aujourd'hui, à l'heure de ce poème, où je suis plus vieux que lui, même devant sa photographie, en cavalier, où il regarde l'objectif, objectivement, comme s'il demandait des comptes, l'arme au pied, l'arme au bord de tomber. La guerre vieillit les corps, éteint les âmes, par à coup, dans le dos, des hommes qui tombent de leurs 20 ans, 20 ans qui s'ajoutent 1 400 000 fois aux 20 ans des hommes debout couchés dans les tranchées. Toutes ces humanités perdues se croisent dans les yeux de mon grand-père qui a traversé 1 400 000 fois la mort. Il a perdu sa femme, très jeune, de la tuberculose, à 37 ans. Il est resté seul, avec 4 enfants. S'est remarié, sans trop d'amour. À recevoir, à donner peut-être. Je ne sais pas, je ne me souviens pas de nos voix mélangées. Je me souviens de ses larmes incrédules au décès de son fils, mon père. Il avait survécu à la mort 1 400 000 camarades ne survivraient pas à cette mort de trop qui fit déborder le sang dans son crâne. Il me reste de lui aujourd'hui un vieux fauteuil en osier dont aujourd'hui je vais me séparer. Le fauteuil s'écroule sur lui-même, va se taire, mais pas sans me faire avouer avant le grenier ce poème qui tente, en ce jour d'hiver 2014, d'écouter mon grand-père, né un soir d'été 1894, une mauvaise année. Elle le verrait 20 ans plus tard s'enrôler dans la mobilisation générale de la mort générale. Pour rien. Yvon Lemaine est né en 1953 à Tréguier. Il vit actuellement à Lannion. Le rivage. Elle est assise dans ses 40 kilos devant la mer, vaste comme les questions qu'elle se pose, j'imagine, devant la mort. Elle est assise sous ses yeux et sous le ciel, ses yeux regardent et gardent ce qu'ils regardent, dans sa main qu'elle dépliera de l'autre côté, comme un enfant montre ses billes au soleil et à ses copains. Elle entraîne ses yeux à l'horizon, elle s'entraîne au point de non-retour. Assise dans ses 40 kilos, dans ses 82 ans, elle vérifie une dernière fois le tour de la terre par la mer avec ses yeux. Elle marche sur l'eau, elle frappe à l'horizon pour ouvrir à la mer la porte du ciel. Elle se prépare pour être la première le dernier jour.
Vous entendre parler de Paradise Lost, du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les soleils de Shakespeare.
Jacques Bonafé qui lisait des textes d'Yvon Lemaine dans la compagnie des auteurs. Point d'orgue à une émission consacrée aujourd'hui au sang et à la chair, la guerre et l'érotisme chez Apollinaire. Un grand merci à l'historienne Annette Becker qui était avec nous en première partie. Je rappelle son livre Apollinaire, une biographie de guerre paru en 2009 aux éditions Talendier. Et puis Alexandre Dupuis, votre livre Apollinaire et les femmes, tout comme votre édition des œuvres érotiques complètes d'Apollinaire sont disponibles à la Musardine. On vous retrouve également plus en longueur chez François Angelier, c'est samedi prochain à 21h dans Mauvais Genre. Cette émission était réalisée par Laurence Millet. À la console, il y avait Thibaut Germèze. Merci à Pascaline Bonnet, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost et Sophie de Lombarez.